Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien d'Inter un philosophe, écrivain avec lequel vous pourrez dialoguer dans une bonne dizaine de minutes. Vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Alain Finkielkraut, bonjour.
Bonjour Nicolas Demeurand.
Nous poursuivons avec vous une série d'entretiens entamés dès la mi-mars quand la France est entrée en confinement. L'idée est simple, elle n'est pas facile, hein, c'est d'essayer de penser un événement totalement inédit et qui est encore loin d'avoir déployé toutes ses conséquences. On va y venir longuement avec vous, Alain Finkielkraut, mais pour commencer, quelques mots sur Michel Piccoli, dont on a appris la disparition hier à l'âge de 94 ans. Quel film, quelles images, quels mots, quels souvenirs garderez-vous de lui ?
Les souvenirs et les films, ce sont... c'est Claude Sautet. C'est les choses de la vie, Vincent, François, Paul et les autres, Marx et les ferrailleurs. Une France qui n'a pas tout à fait été la mienne, une France de l'amitié, une France où il pleut beaucoup, une France des cafés, et une France dont je dois dire la nostalgie. C'est cela pour moi qu'évoque d'abord Michel Piccoli.
Diriez-vous qu'il incarnait une certaine manière d'être un homme dans les années 70, celui de François, cette manière de François, Paul, Vincent et les autres, le visage inquiet et rassurant de l'homme français de cette époque ?
Inquiet, rassurant, mais d'un autre côté, c'était pas non plus un rouleur de mécanique. C'était pas John Wayne, un John Wayne français. Effectivement, il y avait une sorte de fragilité, de fêlure et un sens de l'amitié magnifiquement développé par Claude Sautet.
Allez, venons.
Grand cinéaste mineur.
Belle manière de le caractériser. Venons-en à l'épidémie de Covid-19, Alain Finkielkraut, à ce long confinement dont la France est sortie prudemment il y a 8 jours. Diriez-vous qu'il y a eu des vertus positives au confinement, et si oui, lesquelles ?
Les vertus, oui, j'en vois une, le retour inespéré du silence, entrecoupé simplement par le chant des oiseaux. C'était, de ce point de vue-là, un moment de grâce. Et pour ma part, ça n'a pas été un changement radical dans ma vie. Je vis confiné, avec au cœur l'angoisse, lié à l'idée que j'ai, selon laquelle j'ai peut-être déjà dit tout ce que j'avais à dire, mais avec ce confinement, j'ai vécu confiné avec ma femme. Ce n'était donc pas un fardeau, c'était un cadeau.
Est-ce que vous avez eu peur, Alain Finkielkraut ?
Peur de quoi ?
Peur de la maladie, peur de la société qui changeait, peur du silence aussi.
Non, peur du silence, non. Pas du tout. Peur de la maladie, oui, bien sûr, comme tout le monde. Surtout que j'ai eu à un moment donné des symptômes, mais c'était autre chose. J'avais une infection, j'ai cru que c'était le coronavirus. Donc effectivement, je me suis dit, ça peut m'arriver, je fais partie des populations à risque, non pas en vertu de ma comorbidité, mais parce que je suis, hélas, ce qu'on appelle un senior. Et on m'a même menacé de me confiner jusqu'à la fin de l'année. Heureusement, cette menace n'a pas été mise à exécution. Je peux donc sortir. Je le fais prudemment. Ma peur aujourd'hui, elle vise la forme prise par le déconfinement. Ce qui m'effraie, ce qui m'attriste, ce sont les masques. Alors, je ne tiens pas là un discours militant. Je ne suis pas contre le port des masques. Les autorités sanitaires danoises n'ont jamais voulu des masques. Il faut le rappeler. Mais peu importe. Si l'Académie de médecine et le Conseil scientifique disent qu'il faudra porter le masque dans l'espace public, je le ferai. Simplement, je pense, comme Claude Habib dans un très bel article du Figaro, que désormais chacun vit sous cloche, le charme de la rue diminue et même s'éteint. Ce charme de la rue avait été était déjà considérablement dégradé par le portable. Mmh. Tous ces gens qui se croisent en parlant tout seul et qui transforment la ville en asile de fous. Mais le masque généralisé, si vous voulez, ça porte au charme justement de la rue un coup mortel. Et je ne voudrais pas que l'on s'installe dans ce régime prudentiel au point que la poésie furtive de la vie urbaine ne soit plus qu'un lointain souvenir. Mais encore une fois, c'est un regret. Ce n'est pas un discours militant.
Est-ce que ce monde où l'autre est une menace, ce monde masqué, ce monde sans le droit de se toucher ou de s'embrasser, vous inquiète ou vous terrifie ?
Oui, il m'inquiète. C'est pas simplement de se toucher ou de s'embrasser. On n'est pas obligé de s'embrasser tout le temps non plus. Le régime du bisou m'était un peu pénible. Donc un peu de distance, c'est aussi un peu de civilité. Non, mais la rue, ce sont aussi des échanges furtifs. C'est le plaisir de regarder les autres et d'être surpris. C'est la curiosité et tout cela en effet est très important. Mais là où vous avez raison, c'est que il peut s'instaurer une sorte de méfiance mutuelle. Vous ne portez pas de masque et on vous fait une remarque. Vous devenez dangereux. Ce que je peux comprendre, c'est-à-dire que des gens disent je veux mener une vie risquée. J'ai le droit de prendre des risques. Bien sûr, sauf qu'on n'a pas le droit de prendre des risques pour les autres. Le premier commandement de toute morale, c'est ne pas nuire. Donc il est indispensable en effet de faire ce qu'on appelle des gestes barrières, de maintenir une certaine distance, éventuellement de porter le masque, mais le prix à payer est effectivement très lourd et j'espère que ça ne va pas s'éterniser.
Bruno Latour, que nous recevions à ce micro au début du confinement, a formulé un questionnaire dans un article publié par la revue en ligne AOC. Parmi les questions qu'il pose, quelle habitude, quel comportement du monde d'avant seriez-vous désormais prêt à abandonner? Je vous pose la question, Alain Finkielkraut.
Oh, je ne sais pas, je pense pas que j'avais des habitudes consuméristes affreuses. Je ne roulais pas en 4x4, je n'ai pas de voiture. Donc je n'étais pas un citoyen exemplaire qui pratiquait merveilleusement ce qu'on appelle par un pléonasme assez amusant le tri sélectif. Mais surtout, je suis un peu gêné par cette opposition que l'on veut faire, une opposition absolue, une opposition radicale entre le monde d'avant et le monde d'après.
Pourquoi?
Je crois que l'histoire récente devrait nous avoir appris à nous méfier justement de toute volonté de liquidation de l'ancien. La liquidation de l'ancien pour qu'émerge un monde neuf. On a déjà vu ça. Il y a des choses dans l'ancien monde qui étaient en voie d'ailleurs de disparition, qu'il faut pouvoir maintenir. Je crois que la nostalgie devrait avoir sa place même dans la politique. Et donc je me souviens de cette phrase d'Auguste Comte: la société est composée de plus de morts que de vivants. Donc je penserais plutôt en termes de continuité avec ce que le vieux monde avait, si vous voulez, de nécessaire, de bon, de beau et d'indispensable. Parce que le monde d'après, par exemple, risque d'être celui d'une emprise définitive du numérique. Hein, on vante les vertus du télétravail, et puis on a découvert l'enseignement à distance, on pense que l'ordinateur va résoudre tous les problèmes de l'école. Je pense, moi, que l'incarnation a du bon, et je regrette notamment, dans cet entretien avec vous, Léa Salamé, Nicolas Demeurand, de ne pas vous voir. Je ne veux pas d'une virtualisation du monde. Si le monde d'après c'est ça, eh bien je le regrette.
Mais on vous attend bientôt en studio à Radio France. Ça, c'est les règles très strictes qui ont été édictées. Juste un mot, Alain Finkielkraut, sur l'école et le numérique. Vous ne vous réjouissez pas que la continuité pédagogique ait pu être assurée pendant le confinement, précisément grâce à ces outils, grâce à l'école à distance?
Or, ça a été fait, si vous voulez, de manière minimale, mais ça a été fait. Et en effet, l'enseignement à distance vaut mieux que pas d'enseignement du tout. Mais vous le voyez, l'école a repris, elle a repris avec prudence, et je ne saurais m'élever contre cette prudence, parce que les informations sur la contamination des enfants se succèdent, elles sont contradictoires entre elles. Ce que je constate, c'est que aucun représentant de ce qu'on appelle maintenant la communauté éducative n'a dit qu'il était indispensable, après un trimestre presque blanc, de finir les programmes. Cet objectif apparaissait déplacé, inconvenant, obscène, inhumain, dans les circonstances actuelles. Notre époque humanitaire frappe d'inhumanité l'humanisme au sens classique. Et cela, si vous voulez, me gêne.
C'est-à-dire, expliquez. Ben, vous comprenez pas que les enjeux de santé publique priment pour l'instant sur la transmission classique du savoir?
Non, à l'école, on transmet le savoir. Les enseignants ne sont pas des soignants. Alors on nous dit, on va résorber les inégalités, nées notamment de la fracture numérique. Mais ce qui veut dire que les autres élèves sont mis en stand-by et qu'on sacrifie justement l'idéal d'excellence à la résorption des inégalités. Avec, sous ce régime, Peggy, fils de rempailleuse de chaise, Camus, né dans une famille illettrée, ne serait jamais devenu ce qu'ils ont été. Donc je ne suis pas sûr que ce régime humanitaire favorise vraiment les défavorisés. Et puis surtout, j'entends dire que, notamment par le président de la fédération, la FCPE, j'entends dire que l'école d'après ne doit plus du tout ressembler à celle d'avant, qu'elle doit être collaborative, qu'elle doit se préoccuper des plus fragiles et cultiver le sens du collectif dont nous avons besoin. Le sens du collectif. Et où on dit d'autre part, il faut que les enfants aujourd'hui s'expriment, qu'ils puissent parler. Mais qu'est-ce que ça veut dire le sens du collectif? La lecture est-elle un acte collectif? La rédaction d'un devoir d'histoire ou d'une dissertation? Non, à l'évidence. Mais c'est comme si à l'école, une école qui deviendrait celle du care, celle du soin, eh bien, il fallait en finir à tout prix et définitivement avec la solitude du travail intellectuel. Je trouve que c'est dommage.
C'est conjoncturel.
Il faut regarder un peu aussi derrière nous.
C'est un peu conjoncturel ce que vous dites. Vous avez l'impression que c'est fini, que l'école de la transmission du savoir est terminée, qu'on est passé à l'école du care. C'est juste pendant quelques semaines l'idée de prendre des nouvelles des enfants. C'est ce que dit Jean-Michel Blanquer.
Vous avez raison, Léa Salamé. Ça peut être conjoncturel. Mais beaucoup de gens disent que ça ne doit pas l'être. De même, j'ai lu des sociologues qui expliquaient qu'on a découvert, grâce notamment à cette crise, les vertus de l'ordinateur et qu'il faut l'installer à l'école, au moment même où des ingénieurs vous décrivent le désastre de l'école numérique. Parce qu'avec l'ordinateur, la promotion de l'effort individuel, est remplacée par la lutte contre l'ennui. Et l'ordinateur, disons, a des effets dévastateurs sur l'attention. Oui. De tout cela, on commençait de le savoir, et c'est comme si, grâce à la crise, ce savoir était à nouveau et se dissipait à nouveau, et on retombait dans le culte de la technologie ultramoderne.
Oui. Alain Finkielkraut, l'État s'est porté également au secours du monde de la culture qui prend la crise de plein fouet. Emmanuel Macron est monté en première ligne sur le sujet dans un dialogue filmé avec des artistes. Comment avez-vous reçu ces images? Comment avez-vous trouvé cet échange?
Étrange. J'ai trouvé le président de la République familièrement allumé, en manche de chemise, avec son ministre de la Culture qui prenait à côté de lui scrupuleusement des notes alors que c'était son dossier, appelant par leur prénom un certain nombre d'acteurs et d'actrices qu'il avait vus, pour bien dire qu'il est tu et à toi avec le showbiz. Il y avait une manière, une volonté absolue de se ménager l'affection de, non pas simplement seulement du monde de la culture, mais du showbiz. Je n'ai pas été convaincu tout à fait par cette prestation, même si je vois bien que l'arrêt de toutes les activités culturelles pose un problème grave aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûr que c'ait été tout à fait la bonne manière de l'aborder.
Question d'auditeur.
Oui, Gilda est au standard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur. Je voudrais vous poser la question suivante. Depuis le tout début de la pandémie, la plupart des intellectuels, et ce mot dans ma bouche a une grande valeur, disent « ça va tout changer ». Et quand on regarde, quand on lit ce que cela doit changer, on est frappé de voir qu'en fait, ça va leur donner raison sur ce qu'ils ont toujours dit. Qu'en pensez-vous? Et je pense, comme vous avez cité Camus tout à l'heure, je crois que Camus aurait dit, c'est justement le grand mal des intellectuels de son temps.
Merci Gilda pour cette question. Alain Finkielkraut vous répond.
Il est vrai que beaucoup de gens ont, si vous voulez, projeté sur cette crise leur schéma préétabli. Les souverainistes y ont vu une raison, si vous voulez, de célébrer le retour à la souveraineté nationale. Les écologistes y ont vu une raison de changer complètement de politique. Et je pense notamment à l'anaphore torrentielle, diluvienne de Nicolas Hulot.
Le temps est venu.
Le temps est venu de créer du lien. Le temps est venu d'applaudir la vie. Le temps est venu de nous réapproprier le bonheur. Le temps est venu de croire en l'autre. Le temps est venu de la bienveillance. Le temps est venu de
l'empathie. Ça vous a pas plu, quoi?
Ah non, si vous voulez, parce que ça m'a appris une chose. C'est-à-dire que la cause la plus urgente, c'est-à-dire la beauté, la sauvegarde de la beauté du monde et de la terre, peut générer sa propre bêtise. C'est malheureusement un festival de cuculaterie. Et j'ai pensé à cette extraordinaire réflexion de Kundera dans l'insoutenable légèreté de l'être, la fraternité de tous les hommes ne pourra être fondée que sur le kitsch. Si vous voulez, si le monde d'après, c'est ce monde-là d'empathie, de bienveillance et de crétins souriants, il me donne la chair de poule. Et justement, beaucoup de gens se sont dit, grâce au confinement, je vais lire et relire. Mais qu'est-ce que la littérature de Flaubert à Philippe Roth, en passant par Proust et Musil, sinon une grande protestation contre la cuculaterie? Donc, vous voyez, je suis...
Cuculaterie, est-ce que vous employeriez le même mot pour Vincent Lindon, qui a publié sur le site Mediapart une tribune vidéo très dure sur le fond, une critique d'Emmanuel Macron et à travers lui de la mise en scène du pouvoir, un texte qui demande pour les hommes politiques plus de célérité et de sévérité à la justice. Lindon, qui veut plus de justice sociale, propose l'instauration d'une taxe Jean Valjean. Ces combats sont-ils les vôtres ou vous êtes tout aussi sévère qu'avec Nicolas Hulot?
Ce n'est pas de la cuculaterie. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour l'acteur Vincent Lindon. Là, je serais peut-être plus critique. Car, comme c'est souvent le cas dans le monde du showbiz, sous l'apparence de la révolte contre la doxa, de l'insubordination, il se fait le porte-parole vibrant et véhément de la pensée dominante. Sa philippique reprend tous les poncifs des réseaux sociaux contre un État qui n'a pas seulement fait des erreurs, mais commis des crimes. Et c'est, si vous voulez, je trouve cette imputation absolument insupportable. Oui, notre gouvernement, comme les autres, notre gouvernement a tâtonné, il a pris du retard, mais pourquoi? Parce que il était plongé en pleine tragédie. Un moment, l'a dit Nicolas Demeurand, imprévisible. imprévu, inédit, qu'il est encore aujourd'hui très difficile de penser. Or, cette tragédie, on voudrait la convertir en culpabilité. Et donc, on en vient justement à dresser une liste de coupables qu'on va bientôt punir en justice. Et je trouve ce comportement, je trouve cette attitude délétère et même absolument détestable.
Dans Causeur, vous avez publié une tribune sur le sujet pour dénoncer ce que vous appelez le populisme pénal. Qu'est-ce qui vous inquiète précisément ?
Mais ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est très simple, c'est que s'est-il passé ? Nous vivions comme maître et possesseur de la nature. L'actuelle pandémie nous a démontré que notre maîtrise ne nous protège pas des catastrophes et qu'elle peut même contribuer à les provoquer. C'était un rappel de la finitude. Or, les nouveaux procureurs répondent à ce rappel de la finitude par un véritable déni de la finitude. L'exécutif, pour eux, est censé tout savoir, tout prévoir et tout pouvoir. Et donc, les retards deviennent des crimes, l'incertitude est niée, et la tragédie aussi. Et c'est ce qui fait qu'en effet, le vent mauvais du populisme pénal souffle sur la France. Mmh. Il ne faudrait pas tomber là-dedans. Voyez par exemple l'Angleterre. Le gouvernement anglais s'est planté beaucoup plus que le gouvernement français.
Et pourtant, il est plus populaire, et voilà. Alain Finkielkraut. Comment Boris vous l'expliquez, cette contradiction apparente?
Je crois qu'il faudrait faire une enquête, une généalogie, et aller aux sources du mécontentement français. Il y a un mécontentement spécifiquement français, difficile à expliquer. Et là, il faudrait par exemple remonter à un philosophe oublié aujourd'hui, qui est Alain. Pour Alain, le grand penseur du radicalisme, la démocratie, ce n'est pas la représentation, ce n'est pas la participation aux affaires publiques, ce n'est pas la responsabilité collective. La démocratie, c'est le contrôle, la surveillance perpétuelle du gouvernement. Or, les choses se sont encore aggravées aujourd'hui, parce que à l'époque d'Alain, il n'y avait pas l'État-providence. Aujourd'hui, cet État que l'on contrôle, que l'on surveille, que l'on juge, est aussi que l'on juge tout le temps. Et cet État auquel on ne passe rien, eh bien, on lui demande tout. On lui demande tout, et quand il nous donne quelque chose, on le prend pour argent comptant. Parce que quand même, ce gouvernement a fait des erreurs, mais le chômage partiel pour 13 ou 12 millions de salariés, à 84% du salaire, ce n'est quand même pas rien. Et quand Olivier Véran dit « Trouvez-moi un pays où l'assurance maladie a pris en charge 100% des soins liés au coronavirus », il a raison de le dire. Mais tous ces bienfaits ne sont pas des dus. Tous ces bienfaits doivent être portés au crédit du gouvernement, au lieu de demander, comme Vincent Lindon, que nos gouvernants, nos politiques soient traduits en justice. Et je dis ça sans être pour le moins du monde macronien, car je n'ai jamais cru à l'opposition inaugurale de sa campagne électorale entre les bons progressistes et les mauvais conservateurs.
Cette défiance, ce mécontentement que vous écriviez à l'instant, Alain Finkielkraut, est-ce qu'ils ne viennent pas également d'une communication qui n'a pas été très claire sur un certain nombre de dossiers, comme les masques, comme les tests? François Sureau disait à ce micro que les Français ne sont pas un troupeau ou une garderie d'enfants. Avec ces erreurs-là, avez-vous eu le sentiment que les citoyens ont été aussi infantilisés? Beaucoup le disent.
Non, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas cela. Je crois que la question des masques est très difficile. D'abord, il faut reconnaître que les autorités médicales ont varié sur les masques, notamment l'OMS, et pas seulement l'OMS. J'ai entendu un certain nombre de sommités, d'infectiologues, de dire au début de la pandémie que les masques n'étaient pas utiles et qu'ils pouvaient même être dangereux parce que les gens qui les portaient pouvaient se croire dispensés de la distanciation sociale et de ce qu'on appelle les gestes barrières. Donc, la doctrine a varié parce que on s'est placé sous l'autorité de la science, à juste titre, mais c'est une science elle-même incertaine. Cette science n'est pas une une omniscience. Elle est incertaine, elle est tâtonnante, elle oblige les politiques à faire des choix. Alors oui, peut-être, on a voulu cacher la pénurie. Peut-être, à un moment donné, à un moment donné. Mais faisons ce que demandait Raymond Aron. Mettons-nous à la place des gouvernants un instant. Vous dites, bah, il y a une pénurie, donc on ne va fournir que les soignants, ceux qui sont en première ligne. Comment réagiront les gens qui assurent les services essentiels? Peut-être diront-ils, eh ben, à ce moment-là, ils feront jouer leur droit de retrait et toute l'économie s'arrête. Deuxième problème très grave. La délinquance était en train de se réorganiser. Et à ce moment-là, on peut en être sûr, les cambriolages de matériel médical se seraient multipliés. On aurait dévalisé les hôpitaux. Ça se fait aujourd'hui. Donc, le gouvernement était obligé de tenir compte de tous ces éléments. C'est pas la peine de nous rappeler sans cesse que nous sommes des adultes. Il faut aussi faire avec l'existence du mal. Et je trouve, à cet égard, la critique du gouvernement est tout à fait légitime, mais elle ne doit pas rejoindre l'insulte et elle doit prendre en compte la complexité de la période dans laquelle nous sommes plongés.
On en reste là. Merci beaucoup, Alain Finkielkraut.
Merci à vous.
À bientôt. Merci. En studio, à la radio.
Ah, c'est très gentil.